En première partie d'émission, Zoom sur le méga événement estival de cette année, post-pandémie, qu'on pourrait qualifier, est proposé par Art Souterrain et c'est titré « Créer des ponts ». Alors, c'est un événement trois volets qui se déroulera du 15 juillet au 15 octobre et qui a été lancé en de multiples endroits jeudi passé. Alors, pour nous présenter cet événement soutenant à la fois la relève artistique et le centre-ville, en souhaitant dynamiser le centre-ville, en occupant des commerces vacants, alors j'aurai le grand plaisir de joindre Eddie Firmin. Merci de la patience. Merci de sa patience à Eddie Firmin, qui est coordonnateur des artistes pour cet événement et qui est lui-même artiste. Alors, on le joint après cette pause musicale de DJ Champion, Luminous. Firmin?
Oui, bonjour
Chantal. Eddie Firmin. Toutes nos excuses, il y a eu un petit problème technique en début d'émission, ce qui fait qu'on va courir pendant toute cette heure, mais malheureusement, mais je suis ravie de pouvoir vous joindre, Eddie Firmin, artiste et aussi coordonnateur d'artistes pour l'événement Art Souterrain. Merci d'être avec nous. J'espère que vous portez très bien ce samedi ensoleillé estival.
Ah oui, ça va, je suis bon pied, bon oeil, on va dire. Oui, c'est un beau samedi, et puis voilà.
Alors, le gros lancement d'ampleur est terminé. Alors, j'imagine que vous soufflez un peu aujourd'hui. Si vous nous présentiez le support qui est apporté aux artistes à travers cet événement très spécial, créer des ponts.
Oui, en fait, la volonté, c'est quand même d'aider les artistes à avoir pour ces mois d'été, donc du 15 juillet au 15 août, la possibilité d'avoir à disposition un espace à la fois de travail,
oui,
et d'exposition. Donc les artistes sont capables de montrer ce qu'ils produisent et ce qu'ils font en même temps. Alors c'est très intéressant puisqu'on est finalement situé dans une vingtaine de lieux et à peu près sur une trentaine, un peu moins d'une trentaine de commerces. Donc voilà.
Écoutez, quelle bonne idée. Alors j'imagine que c'est bienvenu pour les artistes qui ont été affectés par la pandémie. qui, à ce moment-là, ont eu peu d'opportunités pour se trouver avec l'accès restreint aux ateliers, l'accès restreint aux expositions. Alors, j'imagine qu'ils apprécient d'autant plus cet événement d'art souterrain qui est bienvenu en cette période estivale.
Ah oui, tout à fait.
Tout à fait.
En fait, les lieux sont aussi variés que la place Ville-Marie ou le Central.
Donc, oui.
Les espaces en eux-mêmes changent de beaucoup. Les magasins, les espaces qui sont libérés sont aménagés réellement avec des panneaux, avec des structures. Et parfois, quand il n'y a pas d'eau, bon, on fait des lavabos de fortune. On arrive à reconstituer l'espace de création. En fait, le plus important, c'est que pendant ce moment-là, ce retour un petit peu, entre guillemets, à la normale, les artistes puissent avoir un espace où réexister dans l'espace culturel et social à Montréal. Et on est pixelisé dans toute la ville. Si on est centré sur Ville-Marie, un peu plus sur Ville-Marie, mais on est vraiment pixelisé dans toute la ville.
Bien,
donc,
oui,
en
c'est
fait,
ce que je...
Pour ça, le public peut aller sur le site d'Art Souterrain, sur la page de Créer des Ponts, et il verra le parcours avec une carte de Montréal, et il pourra se diriger et faire tous les commerces vacants. Donc, voilà.
Alors oui, j'ai pu voir que finalement l'événement s'étend cette année jusque dans le nord de Montréal, dans Rosemont. Alors c'est quelque chose assez fort appréciable pour le grand public. En tout cas, il y a vraiment toute une offre, toute une possibilité de suivre cet événement. Ça, je pense que ça se déroule en trois volets. Hein? Il y a des portes ouvertes. Ça, c'est quelque chose. Vous avez tout orchestré ça.
Oui, oui. Alors pour les trois volets, trois volets, mais en fait c'est deux vraiment volets,
oui.
Et dont un qui est séparé en deux temps. Donc on a le lancement des magasins vacants avec les artistes qui sont aujourd'hui plus d'une cinquantaine.
Ah, oui.
Donc on est à peu près à une soixantaine d'artistes, quand je compte aussi les artistes qui sont à l'intérieur des collectifs. Donc on est à une soixantaine d'artistes, mais un petit peu plus. Ça, c'est le premier volet qui a été lancé cette semaine. On a les cubes. Donc, un peu partout dans la ville, il y a des cubes. Les cubes, ce sont des espaces comme des vitrines autoportantes allumées la nuit et en fait, qui sont dédiées à une œuvre d'un artiste. Donc, le public, lui aussi, pourra voir ces cubes-là dans la ville, donc des œuvres d'art, dans des lieux qui ne sont pas spécifiquement faits pour ça. Alors je pense au parc Jean Duceppe où là on s'attend pas à avoir une œuvre d'art ou une mini exposition présentée. Et en fait donc ce volet cube est divisé en deux. Donc une qui a commencé en même temps que le lancement et puis une autre vague qui va commencer en septembre. Donc voilà.
Alors écoutez, c'est quelque chose, les portes ouvertes, j'ai lu que le public peut aller visiter les ateliers selon des horaires là, qui sont mentionnés sur le site d'Art Souterrain.
Oui, oui, oui. Alors vous imaginez toute la complexité d'une activité comme celle-là, organiser des horaires pour une soixantaine d'artistes.
C'est quelque chose.
C'est quelque chose. Mais en fait, on a le plaisir de voir tout ça s'articuler à la fin. Et effectivement, il y a soit une journée ou plusieurs journées. Certains artistes ouvrent leurs portes au public, donc ils peuvent venir discuter avec les artistes qui sont en résidence. Parce que le principe est quand même qu'il soit en résidence.
Oui, c'est ça. Ce sont des résidences, en fait. Et,
voilà.
Et lors de ces moments ouverts au public, le public, il n'y a pas de gêne. Le public peut se rendre dans les ateliers et rencontrer l'artiste.
C'est ça. C'est là où il n'y a pas de gêne. Alors, il est là sur les vitrines des magasins. Alors, il y a plusieurs horaires. Il y a les horaires où les artistes sont là. Donc, en général, c'est trois ou quatre fois dans la semaine. Donc, il y a ces horaires-là. Donc, on peut quand même tenter sa chance en dehors. Mais il y a des horaires sûrs où l'artiste est là et reçoit le public. Donc, c'est une journée par semaine. Et elles sont toutes indiquées sur le site, assez clairement d'ailleurs, et les horaires aussi.
C'est tout un travail, je vous félicite. Alors écoutez, c'est captivant. Et quel a été le rôle de coordonnateur d'artiste là, pour que tout cela finalement fonctionne bien et arrive à point?
Alors, c'est un rôle assez particulier, oui. Parce que c'était la première. Donc, on ne savait pas trop où on mettait les pieds dans cette activité colossale. Alors, si déjà mettre en, en place une exposition est quelque chose de difficile, alors vous imaginez mettre en place des résidences avec toute la complexité et toute la charge que ça peut avoir. C'est quelque chose d'assez complexe. Donc, je jouais à la fois le rôle de coordinateur et puis de commissaire, parce qu'il fallait quand même faire des choix stratégiques pour placer certains artistes. Et puis parfois ça marchait pas. C'est vraiment des discussions. Alors on a eu énormément de discussions avec beaucoup d'artistes, d'ailleurs des très belles discussions souvent. Oui. Et puis c'est ce qui a mené à ça, en tout cas le visage qu'on a des placements des artistes tels qu'on les voit en ce moment là, c'est on va dire que ça a été ça mon rôle de coordinateur et entre guillemets commissaire.
C'est un événement qui s'adresse avant tout à la relève artistique et félicitations. Comment ça a été comment s'est ajustée la communauté art visuel émergente là, cette proposition d'événement?
Ah, elle a très bien répondu. Elle a répondu rapidement, de manière spontanée. On a continué à avoir aussi des inscriptions jusqu'à la dernière minute. Ça a vraiment été très très bien perçu. Et puis, je crois qu'on a mis en place aussi avec toute l'équipe un ensemble d'éléments professionnels pour aider les artistes, comme des prises de vue professionnelles. Donc, vous avez pu voir fleurir sur les pages de chacun, notamment avec le chargé aux activités qui s'appelle Marie-Pierre.
Oui.
Et Marie-Pierre, elle a proposé des prises de vue de chaque artiste. Et si vous allez faire un tour sur leur site web ou sur leur page Facebook ou Instagram, vous verrez que ce sont les photos. Ce sont nos photos. On leur a offert ça. Donc on tente aussi de les aider de différentes manières, de leur donner des outils aussi de communication. Enfin voilà.
Oh, c'est assez d'importance. Alors écoutez, j'imagine que c'est fort apprécié, ce soutien est très adapté aux besoins particuliers des artistes émergents. J'imagine qu'il y a eu une belle collaboration des propriétaires en temps de post-pandémie pour ce qui est de la location de commerces vacants.
Oui, bien sûr. Ça, c'est, j'allais dire que c'est un. Ils ont répondu favorablement à un projet comme celui-là, ce qui est extraordinaire, oui. Qui nous a permis de libérer en fait tous ces espaces-là.
Alors, écoutez, en terminant, Edith Firmin, c'est qu'il y a comme un volet énigmatique. Semble-t-il qu'il y aura des activités jusqu'au 15 octobre? Est-ce que semble-t-il qu'il y aura une série de performances? Pouvez-vous nous en dire plus long?
Le petit secret, c'est qu'il faut aller fouiller sur le site web pour découvrir le travail et le travail des activités. Chacun y trouvera son intérêt. OK?
Merci.
Donc, en fait, les activités sont remises à jour au fur et à mesure.
Merci.
Effectivement, il y aura des rencontres, des tables rondes, énormément de surprises et de petites pépites qui permettront aux artistes d'être mieux vus et mieux perçus par le public.
Tout à fait. Ce n'est qu'un début. Hein. C'était le lancement jeudi passé. Ce n'est qu'un début de cet événement de longue durée. Merci beaucoup, Edith Firmin, de votre contribution à cet événement. Créer des ponts proposé par Art Souterrain jusqu'au 15 octobre et peut-être plus tard même. Et j'oserais ajouter que d'inviter le public à aller voir votre exposition, votre participation à l'exposition collective aujourd'hui à AV.
Okay.
Oui, vous avez une participation à l'exposition collective aujourd'hui à AV. C'est la dernière journée.
Ça, c'était en tant qu'artiste.
Dernière journée. Alors, vous avez une très belle participation. Allez voir cette exposition qui vaut le déplacement. Merci beaucoup, Edith Firmin.
Merci, Chantal. À très bientôt. Merci
et bonne continuation.
Au revoir.
Alors, on va tout de suite passer avec un témoignage d'une des artistes participant à cet événement d'envergure, Créer des ponts. Il s'agit de Maude Poirier-Fels. Alors, voici son témoignage.
Maude Poirier-Fels fait partie d'une des trois initiatives d'exposition dans le cadre de l'événement très rassembleur Recréer des ponts présenté par le Festival Art Souterrain. Donc, c'est trois initiatives qui souhaitent redonner espoir aux artistes qui ont été affectés par la pandémie dans un passé très récent. Alors, on peut apprécier son œuvre dans un des 10 cubes qui font ou qui feront partie de cet événement, des cubes semi-transparents. Et le sien est situé au Parc Jean-Duceppe. Une œuvre titrée « Pollinisateurs, culte, nos hôtes », une œuvre de 2021. Et je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec Maude Poirier-Fesque, qui est à mes côtés. Bienvenue.
Merci beaucoup. C'est un plaisir.
Plaisir tout à fait réciproque, Maude. Comment avez-vous vécu la pandémie? Cette pandémie qui a vraiment, je pense, perturbé bien des artistes.
Bien, en fait, moi, j'étais en train de finir mon baccalauréat. Donc, au 14 mars, l'école a fermé pendant plusieurs mois. Donc, ça a été une adaptation en accéléré pour trouver des solutions avec les projets de fin de bac. Donc là, c'est ça, j'avais un cours de sculpture, puis ça m'a fait réfléchir, puis ça m'a mené vers le projet que je présente pendant le festival Créer des ponts.
Et donc, très peu d'opportunités pour une finissante au baccalauréat, je pense, en arts visuels et médiatiques, hein? Très peu d'opportunités pour exposer.
Bien, en fait, je pense qu'il y en avait beaucoup pour les gens qui étaient déjà à l'aise avec le virtuel. Donc, pour moi, c'était pas évident. J'ai compris un petit peu en retard qu'il y avait des galeries en ligne, des expos virtuels. Donc, même les artistes qui étaient moins à l'aise devaient apprendre s'ils voulaient être encore présents dans le réseau de transition. Mais là, vu que ça réouvre, tout était en train de bourgeonner. Donc, c'est inspirant.
On a besoin d'exposer en fin de baccalauréat. Et là est apparu l'événement souterrain.
Oui, ça a été un vent de fraîcheur. Puis il y a une espèce de moment d'effervescence à dire, OK, quelqu'un me rappelle, je fais une œuvre matérielle 3D en bois, chose qui est difficile à photographier pour le virtuel. Et il m'invite en plus à le présenter dans la ville. Donc là, la motivation a repris.
La motivation a repris tout à fait. Et c'est le but de cet événement, Créer des ponts, présenté par Arts Souterrains, concocté par Arts Souterrains, de soutenir les artistes un peu troublés, un peu désorientés. Vraiment, tout de suite, je pense que ça dynamise la communauté art visuel émergente, ce genre d'événement-là.
Oui, dès qu'on a commencé à communiquer par courriel, c'est déjà une étape dynamisante. Puis là, hier, c'était le vernissage, aussi pendant le montage le 16 juillet, de voir les gens de l'équipe après des semaines de discussion en virtuel. Là, puis il y a un but aussi, au-delà de l'exposition, de créer des activités pour rallier les artistes, pour qu'ils créent des relations amicales, de l'entraide, de collaboration. Donc, c'est vraiment... Je trouve que c'est un choix d'événement qui est très sûrement demandant pour l'équipe qui organise, mais qui est très actuel puis et inspirante pour les gens qui je pense qu'ils avaient besoin de socialiser et de partager leur art. Ouais.
Cet événement tombe à point et fait du bien définitivement. Alors, Maude Poirier-Fesque, si vous parliez de votre choix de pratique artistique, vous avez décidé, vous avez fait le choix, et moi je trouve que c'est très bienvenu, d'allier art et écologie, hein?
Oui, c'est un choix qui s'est développé depuis tranquillement. Au début, je m'en rendais pas compte parce que j'avais un peu abandonné l'art. J'avais comme un questionnement, puis je suis partie travailler sur des fermes à l'étranger et au Québec pour en me disant, je suis une artiste, tu sais, la culture, qu'est-ce qui est à la base de la culture? Qu'est-ce qui nourrit la culture? Une civilisation, c'est l'agriculture. Puis je me sentais pas à l'aise d'être juste dans un ghetto, des galeries, les musées. J'avais besoin de construire des bases, un ancrage. Donc, l'agriculture écologique, biologique m'a fait comprendre l'écosystème de plus en plus, comprendre les autres espèces, les plantes, les insectes, les champignons, les bactéries. Puis avec l'accumulation de découvertes puis de fascination pour différents climats, à un moment donné, en fait, pendant la pandémie, je connaissais depuis longtemps l'importance des pollinisateurs, mais ça s'est intégré dans ma pratique, qui est pour le moment sculpturale, mais j'intègre aussi le dessin dans cette conscience-là écologique et artistique.
Donc, vous aviez besoin, avant d'aller plus loin dans votre pratique artistique, d'avoir une expérience terrain pour nourrir votre réflexion. Alors, j'imagine que ça a été très profitable.
Oui, je pouvais pas revenir en arrière. On dirait que la conscience holistique, dans le sens d'observer, contempler, errer pour trouver des matériaux, ça m'a transformée dans ma définition de c'est quoi l'art, c'est quoi la créativité, qu'est-ce qui me nourrit en tant qu'artiste, puis qu'est-ce qui fait que je suis en paix de partager ce que je fais. C'est d'avoir une pratique, oui, esthétique, architecturale, mais qui inclut le vivant, qui inclut aussi un apprentissage scientifique.
Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train de nous entretenir justement devant un jardin créé par Maude Poirier, derrière son appartement, avec une cabane intégrée au jardin.
Oui, cette cabane, gîte, hôtel est reliée au projet de créer des ponts. C'est un, il y en a qui l'appellent hôtel insectes, maison insectes. Puis le modèle que j'ai fait ici est très brut. Puis je l'ai fait pendant la pandémie. C'était un peu le premier élan vers cette construction assez, comment dire, avec peu de moyens parce que tout était fermé. Mais là, pour le projet créer des ponts, c'est mon projet de fin de bac.
C'est vraiment très, très intéressant. Alors, ça lie autant un côté écologique comme une esthétique qu'on peut apprécier en vitrine.
Oui, j'assume que j'aime l'esthétique qui est utilitaire, qui est poétique, mais en même temps qui est dynamique, puis qui va évoluer dans le temps, qui va être usée par les intempéries, habitée, donc transformée par, comme une perte de contrôle qui met en paix avec le fait de déposer dans le monde ma structure. C'est pas juste pour les humains, c'est pas juste pour moi, c'est pour un écosystème, une pensée écosystémique qui inclut tous les règnes du vivant. Puis dans les hôtels, j'accueille tous ces pollinisateurs, les auxiliaires qui aident à lutter contre les insectes qu'on aime moins, les ravageurs comme les limaces, les pucerons, les cochenilles. Et puis d'inviter ceux qui vont être, comment dire, ça va protéger, ça va, comment dire, amoindrir le déclin des espèces qui sont en détresse, dans le fond. Puis aussi, aider l'humain à le moins possible agir sur leur jardin, le moins possible utiliser de techniques chimiques ou quoi. Donc, c'est comme un... c'est assez complexe. Il y a plein de filons qui s'entrecroisent.
Alors, il y a tout un message très écologique qui se dégage de cette œuvre. Si vous la décriviez, cette œuvre-là, il y a différents éléments.
Oui.
Évidemment, l'œuvre en cubicule.
Oui, le fait que je la présente en cubicule, c'est sûr que pour le moment, elle n'est pas en activité. Les insectes sont pas là pour... Les insectes ne peuvent pas la visiter pour le moment, mais c'est une première étape pour faire connaître. Il y a un côté éducatif parce que le lieu où c'est exposé, c'est très dynamique, familial, il y a un marché fermier. Alors l'hôtel est en plein milieu d'un écosystème, d'un éco-quartier. Parce que le quartier qui s'appelle Technopole Angus, où il y a le parc Jean Duceppe, ça se veut avec des bâtiments éco-responsables, le parc, le marché fermier. Donc la cohérence est là. Alors, je suis en paix que pour le moment, ces constructions-là qui se veulent être directement dans l'écosystème soient
bien situées, une vitrine bien située. Mais il y a un hôtel, il y a un petit, une structure qui s'apparente à un petit bateau. Si vous nous donniez une description plus élaborée.
Oui, il y a deux modules. Dans le fond, celui qui ressemble à un bateau, c'est aussi un hôtel insecte que j'ai présenté pour le moment dans une espèce d'architecture poétique où il serait peut-être utilitaire s'il était debout, mais là, je voulais le montrer un peu comme quelque chose qui avance, tu sais, dans le côté pollinisateur culte, quelque chose d'assez solennel, assez placé dans l'espace avec il y a aussi un espèce de dessin d'aluminium qui évoque les insectes qui sont assez aérodynamiques, puis souvent qui inspirent la science-fiction. Donc la présentation se veut en même temps archaïque, rustique et futuriste, parce que les insectes sont un peu les acteurs qui, avec notre collaboration, vont permettre d'avoir un avenir plus...
plus positif, optimiste. Mais les petits tubes qui sont dans les structures, ce sont expressément pour accueillir les insectes?
Oui, chaque sculpture gîte est remplie de matière. Puis j'ai fait de la recherche pour comprendre chaque insecte, quelle matière ils aiment pour hiberner, copuler, se reproduire, avoir un lieu de nidation. Donc c'est comme vraiment un gîte où ça leur permet pendant l'hiver de survivre, pendant l'été d'aller pondre leurs œufs. Donc entre deux voyages où ils vont manger les pucerons, butiner, ça leur donne vraiment, c'est comme leur lieu de rassemblement. Donc, mettons, les tiges creuses, c'est pour les abeilles solitaires, les guêpes, les cirfes, qui ressemblent à des guêpes, mais qui sont des mouches. Ils aiment beaucoup aller pondre dans le fond d'une tige. Il y a des combes de pin, il y a de l'écorce, des briques remplies d'argile, des chambres fermées avec des fentes pour les chrysopes et les papillons qui aiment rentrer dans des fentes et aller se poser. et puis les bourdons qui ont aussi une affinité avec les chambres fermées pour rentrer dans leurs petits trous puis aller faire leur hibernation, copulation.
Alors, je suis impressionnée par toutes ces recherches pour développer cette structure fort accueillante pour les différents insectes que vous nous nommez. C'est quelque chose, c'est tout un travail. Félicitations. Oui. Donc, Maude Poirier, je pense que vous êtes vous alignée pour devenir une artiste résolument engagée, je croirais. Quels sont vos projets à venir après Art Souterrain? Déjà, il y a tout un avenir prometteur avec cette œuvre qu'on peut apprécier dans un cube au parc Jean Duceppe.
Oui, j'aimerais. C'est sûr que je continue. J'ai un atelier de bois collectif où je poursuis la sculpture, la construction d'hôtels à insectes. Et en parallèle, je veux aussi développer ce que j'ai commencé pendant le baccalauréat, une pratique de dessin qui va être combinée avec le côté, l'aspect 3D, où j'essaie de me plonger dans le côté imaginaire, d'imaginer le langage des insectes à ma façon, puis de créer des esquisses, puis une espèce d'abécédaire, un alphabet. Puis ça fait du bien de passer d'un médium où c'est plus exigeant avec des outils électriques, un côté technique, le côté dessin où il y a la liberté de la main qui, un peu comme les insectes, va faire des trajets, de penser à leur chimie, leur phéromone, le côté raffiné. Tu sais. Fait que c'est de penser à leur langage, leur intimité et leur habitation. Fait que c'est comme, puis aussi même peut-être développer un aspect sonore, mais là ça commence à faire beaucoup. Mais c'est quelque chose que c'est comme une thématique qui est à long terme dans ma pratique. Ouais.
En tout cas, une source d'inspiration certaine et beaucoup de travail en perspective, en atelier. Merci beaucoup, Maude Poirier, de nous avoir présenté votre pratique artistique et cette œuvre qu'on peut apprécier en cube encore pour 3 mois, je pense, jusqu'au 15 octobre. Hein?
Pour 4 mois et demi, en fait. Ouais. Puis, je vous invite à y aller les vendredis quand il y a le marché fermé parce que la dynamique avec tous les producteurs biologiques puis avec la pensée de l'œuvre qui se veut être le pont entre l'humain et le végétal, la croissance des végétaux, puis le bien-être des insectes, on dirait que là, ça prend vraiment son sens. Donc, les vendredis de 3 à 7, il y a le marché fermé juste à côté du cube de l'installation.
Merci beaucoup pour cette suggestion et très bon événement hein, de longue durée. Encore félicitations pour avoir été sélectionnée. Merci.
Merci. Puis mon site est en construction. Donc pour le moment, ceux qui me cherchent, si jamais ça arrive, j'ai un Instagram avec mon nom, Maude Poirier-Felks. Donc je travaille sur le virtuel aussi pour continuer l'adaptation malgré la réouverture des lieux d'expo. Merci à vous.
Merci.
Vous écoutez le magazine radio In Situ sur Radio Centre-Ville 102,3 FM à Montréal.